Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous en entendez souvent parler, l'extrême droite ne cesse de marquer des points en Europe, l'Union européenne fut jadis fondée pour consolider les acquis démocratiques de l'après-deuxième guerre mondiale, mais aujourd'hui, de nombreux gouvernements de cette Union européenne s'inscrivent à rebours des traditions social-démocrates, démocrates chrétiennes, libérales ou simplement conservatrices. L'Italie en est le dernier exemple et nous en avons déjà parlé ici dans cette émission. Mais la Hongrie, la Pologne ou l'Autriche ont précédé les Italiens. Dans ces trois pays d'Europe centrale, l'extrême droite est au pouvoir ou associée au pouvoir. La détestation de l'étranger y est érigée en principe politique de base. Cela s'appelle racisme, xénophobie, voire antisémitisme. Pourtant, pour grave que soient ces atteintes aux valeurs humanistes et démocratiques qui fondent l'Europe, on ne peut en rester là. À Vienne, Budapest et Varsovie, il y a aussi des politiques économiques. Quelles sont-elles? Sont-elles elles aussi marquées du sceau de la discrimination et des privilèges? Affaiblissent-elles elles aussi le pacte démocratique? Menacent-elles la croissance économique? C'est ce que nous allons voir avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Xavier Richet.
Bonjour.
Xavier Richet, vous êtes professeur d'économie à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous y êtes titulaire de la chaire Jean Monnet d'économie de l'intégration européenne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je ne citerai que le dernier, écrit avec votre confrère Jean-Paul Chagnolot et qui s'intitule « L'Europe, approche géopolitique et économique ». C'est aux éditions L'Harmattan. Et avec nous dans ce studio à vos côtés, Anna Boata, bonjour.
Bonjour.
Anna Boata, vous êtes économiste chez Euler Hermes, une filiale du grand assureur allemand Allianz. Vous êtes aussi prof d'économie à l'université Paris Dauphine. Enfin, je termine cette rapide présentation par vous, Julien Vercueil, bonjour.
Bonjour.
Julien Vercueil, vous êtes professeur d'économie à l'INALCO, l'Institut national des langues eaux, langues orientales. Votre dernier livre s'intitule « L'économie politique de la Russie ». Enfin, je devrais dire votre prochain livre, puisqu'il paraît aux éditions du Seuil dans la collection Point, mais seulement au mois de janvier prochain. Alors, au cours de cette émission des reportages, nous irons à Vienne retrouver Isor Rias, à Budapest avec Laurence Labruyère et à Varsovie avec Thomas Giraudot. Alors on va parler de trois pays d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche. Est-ce que ces pays ont des caractéristiques économiques communes ou est-ce qu'ils sont très divergents, Xavier Richet?
Ils ont d'abord en commun une histoire. Je crois qu'il faut tenir compte de cette histoire, c'est-à-dire que l'Autriche est un ancien empire, la Pologne et la Hongrie ont appartenu à cet empire, la Hongrie dominée et dominant, puisqu'il y a eu l'empire austro-hongrois. La Pologne, une partie de la Pologne a été occupée par l'Autriche, donc il y a déjà quelque chose de commun. L'autre chose aussi, je crois, en ce qui concerne la Hongrie et la Pologne, sont des pays qui, après la transformation qui a eu lieu, voilà maintenant une trentaine d'années, sont devenus ce qu'on appelle des capitalismes dépendants, c'est-à-dire que leur activité économique principalement est liée, et c'est un des paradoxes de la réunion de notre débat d'aujourd'hui, puisque la force économique de ces pays résulte massivement à la fois des politiques européennes qui ont été appliqués avec les transferts, tous les programmes liés à l'intégration et surtout avec la présence massive du capital étranger. Il faut bien voir que la force de ces économies aujourd'hui, en grande partie, est liée au capital étranger qui vient d'Europe, principalement d'Allemagne, Pays-Bas, France, etc.
Alors, on va détailler tout ça, mais il semble que vous avez sauté une étape dans votre parcours historique, c'est l'étape soviétique.
Oui, c'est une forme d'empire. Bon, si on prend... il y a un grand économiste, enfin un économiste américain serbe, Milanovic, qui a écrit récemment un article très intéressant qui montre que finalement dans cette région on a une succession de pays qui ont subi l'empire russe soviétique, l'empire allemand prussien, l'empire Habsbourg, l'empire ottoman, et donc finalement il y a tout cela qui ressort un peu aujourd'hui. Alors j'ai parlé de l'Union soviétique. L'Union soviétique a été finalement une forme de a été un empire et qui a eu un impact en termes d'intégration de ces économies autour de l'Union soviétique. Et le grand enjeu de la transition était justement de rebalancer en quelque sorte ces économies qui étaient dépendantes de l'URSS vers l'indépendance vis-à-vis de l'Union européenne. Alors les choses sont différentes bien sûr pour l'Autriche qui a une autre histoire, mais on en reparlera tout à l'heure.
À la Boata, les points communs entre ces trois pays, vous les voyez votre voisin, Xavier Richet?
Je reviens un petit peu sur l'aspect croissance économique et vraiment richesse. Je dirais que ces trois pays ont en commun le fait d'avoir encore une croissance assez forte. Si on parle de la Pologne, on est au-dessus de 3% pour la croissance du PIB, la Hongrie pareil. Et ce sont et l'Autriche avec une croissance plus faible mais stable. Donc ce sont pas des pays qui aujourd'hui, comme l'Italie, par exemple, ont du mal à voir une croissance économique, une croissance des salaires. Et d'ailleurs, notamment dans la Hongrie, on voit aujourd'hui des risques de surchauffe de l'économie. On va en parler notamment à cause des mesures du gouvernement actuel, mais clairement, on est en train de switcher d'un régime de croissance modérée à un régime de croissance en surchauffe.
Julien Vercueil, un peu d'histoire. La Pologne et la Hongrie étaient tous les deux dans ce qu'on appelait le Comecon, c'est-à-dire une espèce de division du travail à la mode soviétique. Est-ce qu'ils en gardent les traces aujourd'hui ?
De moins en moins. Non, on peut vraiment dire que à partir de 1989, les politiques qui ont été menées aussi bien en Hongrie qu'en Pologne ont visé avant tout à se détacher du Conseil d'aide économique mutuelle, qui était appelé en anglais Comecon. Et du coup, aujourd'hui, 85% du commerce se fait avec l'Union européenne pour ces pays-là. Donc, ce sont vraiment des pays qui sont très intégrés. Et de ce point de vue-là, mais de ce point de vue-là seulement, ils ressemblent beaucoup à l'Autriche, parce que malgré tout, ils ne jouent pas dans la même catégorie que l'Autriche du point de vue de la richesse par habitant.
C'est-à-dire
que l'Autriche est 3,5 fois plus riche en termes de PIB par habitant que ces deux pays qui sont autour de 14 000 dollars par habitant. On a vraiment un pays qui est fortement industrialisé, post-industrialisé, avec une économie qui repose sur des industries à haute valeur ajoutée, sur des services à haute valeur ajoutée.
Ça, c'est l'Autriche.
Et ça, c'est l'Autriche. Et puis, on a de l'autre côté deux économies qui sont des économies dont la croissance, effectivement, est relativement forte, qui se sont transformés très très fortement dans les 25 dernières années, mais qui restent des économies dans lesquelles, par exemple, le salaire minimum aujourd'hui dans ces pays est inférieur à 3 euros donc de l'heure. Voilà. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux de vie moyens qui sont extrêmement différents de celui de l'Autriche.
Alors comment s'est passé ce dégagement, cette sortie de l'espace soviétique sur le plan économique, Xavier Richet? Est-ce qu'il y a eu une libéralisation en Hongrie, en Pologne à marche forcée avec la création, l'apparition d'une classe d'oligarques, comme on a vu à Moscou, en Russie?
On l'a vu, mais dans des moindres proportions. On le voit aujourd'hui, par exemple, si on prend le dirigeant hongrois qui fait du prébendisme,
Orban.
Se forme une clique en distribuant l'argent européen dans son entourage, etc. Donc ça, c'est une forme de poutinisme à la hongroise, mais qui est très peu développée. Si on regarde les oligarques, il y en a très peu. Il y a celui qui est en train d'acheter Le Monde en Tchéquie, là, mais
le journal Le Monde,
mais ce sont des gens qui se sont enrichis, comme en Russie, par le biais des trous juridiques, du vide juridique qui a permis, l'accaparation d'actifs, comme en Russie. Mais c'est moins important dans la mesure où ces pays ont choisi, sous la contrainte de l'Union européenne en grande partie, de transformer leur économie en économie de marché par le biais de procédures plus ou moins transparentes, ouvertes, avec des privatisations par le marché, c'est-à-dire vente soit des nationaux, soit à des firmes étrangères. Bon, celles-ci sont arrivées très vite, mais c'était un processus qui a évité un peu le copinage à la russe. Donc là, il y a une très grande différence, ce qui explique aussi pourquoi ces économies se sont intégrées finalement assez rapidement, parce que les investissements sont allés là où il y avait des manques, où il y avait des trous. On cite les services. Bon, il n'y avait pas de services avant, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas toute une série d'actifs n'existaient pas. Et d'autre part, ce sont des économies qui sont revenues très rapidement des interlands de l'Allemagne, de la France, etc. Aujourd'hui, sans l'Allemagne, la Hongrie n'existerait pas sur le plan économique.
Comment ces pays ont-ils traversé les 10 dernières années la crise de 2008 et ses conséquences en Aboata?
Ce sont des pays qui sont effectivement fortement liés au cycle de l'Union européenne et en particulier de la zone euro, donc très dépendante au commerce extérieur. Et on l'a vu pendant la dernière crise, le commerce mondial s'est contracté très fortement, plus de 6% de baisse. Donc forcément, ces pays ont aussi connu une récession très forte. Après, effectivement, avec l'intégration des fonds européens, l'absorption, même si ils ont du mal à absorber tous les fonds, et on le voit aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a quand même beaucoup d'émigration de ces pays, notamment de la Pologne. Donc, on a du mal à absorber les fonds européens. Et ils se sont repris. Mais aujourd'hui, on voit clairement que les gouvernements en place ne donnent pas de confiance. Et donc, ça se voit dans l'investissement, notamment dans l'investissement étranger. Et il ne faut pas oublier qu'on rentre de nouveau dans une période électorale en Pologne. Donc, on a des élections l'année prochaine.
Oui, il y a des élections ce week-end et même ce week-end.
Et on voit locales, dans les sondages, le parti au pouvoir ne perd pas le soutien. Donc, on ne voit pas comment il peut y avoir un renversement de ces politiques qui rassurent pas les investisseurs étrangers.
Julien Vercueil.
Il faut mentionner le fait que pour la Hongrie et pour la Pologne, ces deux pays ont conservé la maîtrise de leur taux de change.
Qu'ils ne sont pas dans l'euro.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'euro, ce qui leur a donné un certain nombre de marges de manœuvre en termes de politique monétaire pour faire face aux à-coups du commerce extérieur. Mais ce qui a aussi eu comme conséquence de créer un risque de change. C'est-à-dire que les deux aspects de l'autonomie de la politique monétaire se sont mêlés. Par exemple, en Hongrie en particulier, ce risque de change s'est assez fortement manifesté du fait que les agents économiques, et en particulier les particuliers, étaient relativement fortement endettés en euros. Et donc, lorsque la monnaie hongroise a été dépréciée, le forint, les problèmes de surendettement se sont multipliés dans certains ménages.
Alors la Hongrie, vous en parlez, on y va tout de suite. La Hongrie, où l'espérance de vie à la naissance est inférieure de 4,7 années à la moyenne des pays de l'OCDE. Pourtant, le gouvernement hongrois est l'un de ceux qui investit le moins dans la santé. Moins de 5% du PIB est consacré aux soins, aux hôpitaux qui sont mal équipés, à la prévention qui est peu développée, au personnel médical qui part à l'étranger désespéré. C'est un reportage Éco d'ailleurs, signé Florence Labruyère à Budapest.
Au centre de Budapest, cet hôpital ressemble à beaucoup d'autres, avec sa façade délabrée et ses équipements vétustes. Geza Szabó est venue accompagner sa mère à son rendez-vous. Elle est diabétique et a besoin de dialyse.
Le service où ma mère a fait sa dialyse a été privatisé et il marche bien. Mais à part ça, le fonctionnement de l'hôpital laisse beaucoup à désirer. Même si le médecin était compétent, il faut attendre des mois pour faire un examen ou avoir un rendez-vous. On passe son temps à attendre.
Si les listes d'attente sont si longues, c'est parce que les hôpitaux publics manquent cruellement de médecins et d'infirmières, comme en témoigne István Daraj, un infirmier de 56 ans.
On est censé travailler 180 heures par mois, mais en fait, on en fait 260, voire 300. Moi, je suis infirmier en chirurgie et en plus de mon boulot, je remplace l'infirmière en chef. Et je m'occupe aussi de la gestion. Dans mon service, il y a 4 infirmières pour 67 malades.
István fait le travail de 3 personnes. Il touche l'équivalent de 600 euros net par mois, alors que le coût de la vie est presque aussi élevé qu'en France. Pas étonnant que des équipes entières d'infirmières partent travailler en Allemagne. Et les médecins quittent aussi la profession. Kathleen Shea est gynécologue. Après 2 ans de pratique, elle a cessé d'exercer. Elle ne supportait plus les conditions de travail.
Les hôpitaux hongrois manquent beaucoup de médecins qui ont entre 35 et 50 ans. Il n'y a plus que des praticiens âgés ou des très jeunes. Et les jeunes doivent remplacer les trentenaires et les quadragénaires qui sont partis. Moi, plusieurs fois, j'ai été obligée d'opérer des tumeurs cancéreuses. J'étais terrifiée. Parce que je ne suis pas qualifiée, je n'ai pas été formée pour ça.
Pourtant, la situation s'est améliorée dans certains secteurs, dans des régions défavorisées. Des hôpitaux ont été rénovés grâce à un fonds européen de près de 2 milliards d'euros. Mais l'argent européen ne peut pas être utilisé pour financer des salaires ou restructurer le système de santé. Un système d'autant plus difficile à réformer qu'on ne peut plus en mesurer le déficit, car le gouvernement de Viktor Orban a aboli la sécurité sociale. Peter Mihai, professeur d'économie à l'université Corvinus de Budapest.
En 2011,
le système de sécurité sociale a été aboli par la nouvelle constitution. On n'a plus de sécurité sociale. C'est un retour au socialisme. Actuellement, les gens paient des impôts au trésor et le gouvernement gère le système de santé comme bon lui semble. Il a nationalisé la sécurité sociale et comme ça, il est libre de dépenser l'argent comme il veut et de présenter ça comme un cadeau. Mais les citoyens ont perdu un droit fondamental, le droit à la sécurité sociale.
Le gouvernement hongrois semble pourtant vouloir faire face à la pénurie du personnel de santé. Il vient d'annoncer que plusieurs milliers de fonctionnaires pourraient être mutés dans les hôpitaux. Ces fonctionnaires seront chargés de la gestion et de l'administration des établissements.
Un reportage signé Florence Labruyère à Budapest dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, où nous parlons des politiques économiques, des gouvernements d'extrême droite installés en Europe centrale. Trois invités pour en parler, Anna Boata, économiste chez Euler Hermès, Julien Vercueil, professeur à l'Institut National des Langues Eaux, et Xavier Richet, prof d'économie à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Comment réagissez-vous, Xavier Richet, à ce reportage?
Ben, je crois qu'il faudra ajouter aussi les autres secteurs qui sont pénalisés. Un autre secteur qui correspond à ce que dit madame,
ouais.
c'est le fait que, par exemple, les systèmes de formation ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc, il y a des gros problèmes, disons, de formation professionnelle. Et ce qui pose un autre problème lié à l'immigration dont vous avez parlé, au fait qu'il y a une crise démographique dans ces pays, en Pologne et en Hongrie, notamment. Donc on se trouve face à un paradoxe, parce que d'un côté, vous avez les grandes firmes internationales qui investissent dans ce pays, qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. De l'autre côté, le système, maintenant, rabote les dépenses dans ce secteur. Et à cela s'ajoute un autre phénomène qu'on trouve en Pologne, mais aussi peut-être un peu moins en Hongrie, le fait que les dépenses de recherche-développement sont très peu élevées. Si on regarde le niveau des dépenses de recherche-développement en Pologne, c'est 1% si on compare, disons, à la moyenne européenne, ce qui veut dire que les firmes étrangères qui investissent en Hongrie viennent là uniquement pour se servir de la main-d'œuvre et il n'y a pas une politique de l'État pour promouvoir les qualifications, développer l'offre suffisante.
Julien Vercueil, c'est une caractéristique commune à ces trois pays, le désengagement des investissements publics, l'État se retire de toute série de champs qui normalement devraient lui incomber.
Pour ce qui est en tout cas de la Pologne et de la Hongrie, oui, il y a un désengagement, mais qui est sélectif. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Vous avez par exemple des politiques sociales qui sont menées par ailleurs,
on y viendra,
et qui contredisent un petit peu certains chiffres qu'on peut donner au sujet des politiques publiques. Mais moi, j'ai trouvé ce reportage très intéressant parce que il montre à la fois les difficultés d'une économie dont le taux d'investissement est insuffisant, c'est-à-dire que la part des ressources que l'économie génère et qui sont consacrées à l'investissement dans des infrastructures, dans ce qui va constituer la base future de la croissance est trop faible. Elle est même plus faible en Pologne et en Hongrie qu'elle ne l'est en Autriche, alors que l'Autriche est plus riche, donc a moins besoin d'investir une part importante de ses richesses pour un rattrapage éventuel. Donc ça, c'est typique quand on parle des infrastructures, en particulier infrastructures hôtelières. Hospitalière.
Ouais.
Le deuxième élément, c'est les différences salariales dans une Europe où il est quand même plus facile qu'ailleurs, notamment pour les plus qualifiés, de passer les frontières. Et donc c'est très intéressant pour ça. Et puis le troisième élément, c'est finalement ce que l'on retrouve aussi beaucoup en Pologne, c'est le tournant paternaliste en fait du pouvoir qui essaie d'une certaine manière de politiser un certain nombre politiques sociales qui devraient être des politiques institutionnelles et non pas dépendantes de tel ou tel parti. Or là, on voit quelque chose qui est également à l'œuvre en Pologne, ce paternalisme à l'œuvre en Hongrie.
Vous diriez que c'est une caractéristique d'un régime d'extrême droite, d'un régime populiste?
Voilà, je dirais que c'est pas forcément caractéristique de l'extrême droite, mais c'est caractéristique d'un populisme qui ici est d'extrême droite.
Anna Boata.
Moi, je rajouterais le fait que c'est une tendance qui est quand même commune à l'Europe de l'Est. Moi-même, étant roumaine, je vois ce problème en Roumanie. Donc, il y a clairement un exode des cadres médicaux vers l'Europe de l'Ouest, notamment parce que ces pays bénéficient d'une équivalence des études. Donc, forcément, on revient ici à la reconnaissance des études dans le système public dans ces pays. Donc, soit les médecins vont dans le secteur privé, soit ils vont aller ailleurs en Europe de l'Ouest, clairement parce qu'ils sont sous-payés. Mais je reviendrai ici, je pense, sur une mauvaise allocation des dépenses publiques, clairement dans ces pays, bon, notamment aussi, même en Roumanie, parce qu'il y a une tendance vers plus de populisme, ou alors des partis non traditionnels. Et là, clairement, on voit qu'il y a quand même des déficits publics qui sont très élevés. par rapport à la norme de ces pays. Donc on attend en Hongrie presque 3% du PIB pour le déficit public.
3% du produit intérieur brut.
Exactement, ouais. Qui est quand même élevé, en sachant qu'en fait on dépense cet argent pour revenir sur des réformes qu'on avait fait avant. Donc
par exemple
les réformes de retraite. Donc ça c'est clairement un point commun de tous les partis un petit peu non traditionnels, revenir sur les choses qui inquiètent une population qui est en permanence vieillissante. Donc forcément on réduit l'âge de départ à la retraite. En Pologne, je pense que ça a été réduit de 67 pour les hommes à 65, pour les femmes à 60, alors que c'était 67. Donc on voit bien qu'on revient sur des réformes qui étaient très importantes, puisqu'encore une fois, on revient en fait qu'il y a beaucoup d'immigration dans ces pays dont la force du travail est vieillissante. Et c'est là où c'est inquiétant, parce que l'Europe devrait jouer peut-être un rôle un petit peu plus correctif, et elle le fait. Mais le problème, ce sont les règles européennes. Et donc là, on va peut-être revenir sur le Parlement européen et la Commission européenne. Mais clairement, il y a aujourd'hui des procédures contre la Pologne et contre la Hongrie. Mais malheureusement, on est tous conscients du fait que les règles sont telles que finalement, ils ne vont pas être punis. Parce qu'on demande une unanimité, parce qu'il y aura des alliances entre ces pays. Donc c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout dans un contexte d'élections européennes l'année prochaine, du montée du populisme généralisé en Europe.
Xavier Richet.
Je pense qu'il faudrait faire la distinction aussi avec l'Autriche. L'Autriche a une perspective, une trajectoire très différente par rapport aux pays qu'on a mentionnés. Bon, pourquoi il y a un populisme très fort en Autriche? Ça vient de l'histoire, ça vient de la xénophobie plus ou moins organisée qui existe depuis l'après-guerre. Il n'y a jamais eu de purge très profonde en Autriche comme il y en a eu
oui,
en Allemagne.
L'antisémitisme est toujours
très prégnant. L'antisémitisme est très fort. Et puis, il y a aussi une pratique des coalitions politiques qui fait que la droite rentre dans les gouvernements, etc. Ce qui explique, alors d'un côté, ça amoindrit l'extrême droite, mais de l'autre côté, ça lui donne une porte d'entrée. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est très différent de ce qui se passe en Pologne, où on a un retour à la vieille Pologne. Bon, faut pas oublier que la Pologne a été indépendante, entre guillemets, de 1919 à 1939, et que dans la politique populiste aujourd'hui qu'on trouve en Pologne, il y a ce côté victimaire que la Pologne veut retrouver entre l'Allemagne nazie d'un côté et le communisme de l'autre. Les Polonais ont remis sur la table le problème des compensations d'après-guerre, etc. Donc c'est quelque chose qui est très différent dans les trois pays.
Concernant la Hongrie, on sait qu'Orban dépense beaucoup d'argent, par exemple, dans des campagnes de communication très coûteuses contre George Soros ou contre l'Union européenne, l'antisémitisme, la xénophobie. On sait aussi que cet argent va vers des amis du régime, des amis d'Orban. Vous disiez tout à l'heure, c'est du copinage, c'est mafieux.
C'est pas mafieux, c'est ce qu'on appelle le prébandisme, la prébande, c'est-à-dire qu'il y a une forme de privatisation en Europe de l'Est qui a dominé en Russie, qui était les privatisations patrimoniales, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui ont pris, les actifs pour eux et qui redistribuent, c'est la politique de Poutine. Aujourd'hui en Hongrie, à petite échelle, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'il y a une clique qui s'organise et qui profite des subsides européens ou bien qui capte des revenus de certains ministères de manière privative, etc. Donc il y a un aspect très différent parce qu'on ne retrouve pas ça en Pologne. En Pologne, il n'y a pas d'enrichissement par le biais du prébandisme. Il y a de la transparence. Bon, il peut y avoir des histoires, mais il n'y a pas cela. En Hongrie, on a aujourd'hui une clique. C'est une clique qui pense aussi peut-être à son pouvoir. Alors c'est assez paradoxal, parce que c'est pas un pays, c'est une extrême droite qui est légaliste, entre guillemets, qui peut perdre les élections un jour. Mais en attendant, il y a cette stratégie d'ancrage dans le paysage politique.
Julien Vercueil, on sait que la question des inégalités qui montent partout est un problème général sur lequel beaucoup d'économistes se penchent. Est-ce que ça concerne ces pays-là aussi ?
Bien entendu, pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'héritage historique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ce sont, pour la Pologne et la Hongrie, des pays qui sortent d'une période de leur histoire pendant laquelle les inégalités étaient relativement contenues, et que donc la transition des années 90 a fait exploser ce niveau d'inégalité avec un enrichissement d'une très fine frange de la population la plus privilégiée, notamment celle qui était liée aux privatisations et qui a pu en profiter à temps, d'un côté. côté, et puis de l'autre côté, des conditions de beaucoup plus difficiles, de précarité plus grande pour une partie de la population plus vulnérable. Donc ça, ça alimente évidemment les discours qui peuvent faire le lit du paternalisme, en disant je vais vous protéger contre les menaces qui viennent de l'extérieur. C'est une caractéristique tout à fait récurrente dans l'ensemble des populismes historiques, et en particulier des populismes d'extrême droite, et qu'on retrouve dans le discours, et là il y a une vraie parenté, dans le discours de Kaczynski d'un côté en Pologne, et de Orban de l'autre en Hongrie. Donc la question des inégalités est une question qui est prise en charge par le discours politique des populismes de droite. Est-ce qu'elle est traitée par contre sur le terrain par des politiques appropriées? Il y a un certain nombre de politiques qui vont dans le sens de la réduction des inégalités, par exemple les politiques natalistes. De facto, une politique nataliste, étant donné qu'elle est, elle distribue des ressources sans faire de distinction entre les niveaux de revenus, va forcément avoir un impact plus important sur les populations qui sont aux revenus les plus modestes. Donc de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place qui peuvent contrebalancer l'augmentation des inégalités, ce qui explique aussi une partie de l'adhésion de certaines couches de la population à ce type de discours.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des politiques économiques des gouvernements d'extrême droite installés en Europe centrale, Hongrie, Pologne, Autriche, avec trois invités pour en parler. Julien Vercueil, prof à l'INALCO, que vous venez d'entendre, Xavier Richet, qui est professeur à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, et Anna Boata, de chez Euler Hermès. Julien Vercueil, la Pologne, vous en parliez à l'instant. En 2015, le parti au pouvoir, le PiS, avait remporté la victoire, notamment grâce à sa promesse de création d'une allocation familiale, le 500+. Deux ans après sa mise en place, le bilan de cette mesure est mitigé et son coût commence à sérieusement poser problème au gouvernement. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Thomas Giraudeau à Varsovie.
500+, c'est 500 OOT, soit 120 euros chaque mois à partir du deuxième enfant, versé à toutes les familles qui le demandent. Maria et Mateusz, parents de trois enfants, ils touchent donc près de 250 euros tous les mois.
Cela nous permet de sortir davantage au théâtre, d'aller au cinéma, à la piscine. On peut acheter plus de vêtements et de livres scolaires aux enfants. Parmi nos amis, nous voyons beaucoup de couples qui ont décidé d'avoir un troisième enfant grâce à 500+. Car comme nous, ils peuvent maintenant vivre avec un seul salaire.
Je reste à la maison, j'ai arrêté de travailler et je m'occupe désormais des enfants.
Un peu plus loin, sur un banc, Natalia joue avec sa fille unique, âgée de 2 ans. Elle aussi a droit à l'allocation parentale.
Je touche 500 votés par mois car je suis en dessous du plafond qui me permet de l'avoir. Grâce à cet argent, je peux acheter des couches, des vêtements pour ma fille. Aujourd'hui, c'est vraiment fondamental pour moi.
D'autres familles rencontrées avouent bénéficier de l'allocation sans en avoir vraiment besoin. C'est un des problèmes de 500+, lancé par le parti au pouvoir, le PiS, pour relancer massivement la natalité, mais en donnant le même montant à tout le monde. Le gouvernement maintient les inégalités. Richard Scharfenberg est politologue spécialiste de la pauvreté à l'université de Varsovie.
Les inégalités de revenus ne sont pas importantes pour le parti PiS, qui est de droite et ultra-conservateur. Pour les réduire, il faudrait restreindre le droit à l'allocation 500+, ne pas l'accorder aux plus aisés. Mais le PiS ne le fera pas car il ne veut pas perdre cet électorat. Il dit que cela coûte trop cher de vérifier si chaque famille en a vraiment besoin. C'est faux selon moi.
« 500+ coûte 6 milliards d'euros par an à l'État. Conséquence, alors que l'économie polonaise se porte très bien, le déficit public devrait atteindre 10 milliards d'euros cette année. Julian Auleitner, l'homme à l'origine de cette allocation, la défend.
Bien sûr, on pourrait réserver 500+ uniquement aux familles les plus pauvres. Mais nous devons respecter un principe d'égalité de traitement entre les enfants. Et puis, ce sont de futurs adultes. Ils vont payer des taxes, des impôts. L'argent dépensé reviendra plus tard dans les caisses de l'État. Les retraites, elles, coûtent beaucoup plus cher, par exemple, que cette allocation familiale.
Plus minus 10 milliards d'euros.
Les retraités, justement, un électorat récemment visé par le chef du parti PiS. Il aimerait mettre en place un 500+ exprès pour eux. Mais cette mesure a été retoquée par son gouvernement, l'allocation familiale coûtant déjà trop cher. Eux devront se contenter de 50 OOT.
Un reportage signé Thomas Giraudot à Varsovie. Anna Boata, j'ai l'impression que le raisonnement du défenseur de cette mesure qui explique que ces enfants qui bénéficient des allocations familiales seront demain des contribuables ou des travailleurs qui paieront des impôts, ça vous laisse un peu sceptique?
Oui, parce que effectivement, je ne vois pas comment la tendance de ces enfants, demain adultes, qui vont bénéficier de l'Europe pour faire leurs études à travers des programmes Erasmus, et donc rester dans les pays où ils ont beaucoup plus de perspectives, et peut-être aussi où ils adhèrent plus à au régime ou aux orientations politiques. Et donc là, clairement, je pense pas que c'est quelque chose qui effectivement marchera. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux quand même, je les appellerai pas non soutenables, mais quand on regarde la croissance des dépenses publiques parmi les pays de l'Europe de l'Est, la Pologne est en tête, avec presque 2% de croissance annuelle, qui est quand même beaucoup. À titre d'exemple, la Turquie dépense 5%, mais bon, c'est un cas extrême. Donc clairement, ça va devenir insoutenable, parce qu'à un moment donné, avec une croissance plus faible, c'est ce qu'on attend, parce que l'Europe va sur des rythmes de croissance plus faibles, avec un déficit public plus élevé et des taux de financement plus hauts. Donc on a un effet boule de neige sur la dette, même si grâce au régime passé dans ces pays, on n'a pas des niveaux de dette très élevés, ça peut engendrer des problèmes à long terme pour cette génération future. Donc ça peut encore aller monter cet effet des migrations. Et encore un point, ce que je voulais soulever, c'est une politique qui va, à force, à long terme, donner lieu à des différences salariales très élevées entre les femmes et les hommes. Parce que forcément, on va vers des politiques plus traditionnelles, où les femmes restent à la maison avec les enfants. Et on connaît tous, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts, des politiques publiques qui sont faits pour pouvoir diminuer ces différences salariales. Mais justement, dans ces pays d'Europe de l'Est, on a la chance aujourd'hui de ne pas avoir beaucoup de différences salariales. Encore une fois, c'est une conséquence des régimes soviétiques. Mais bon, c'est pour le coup quelque chose de bien. Et donc je vois clairement un coût à long terme, encore une fois, pour une partie de la classe sociale. Et c'est quelque chose qui est quand même important à souligner quand on sait que quand l'entrée sur le marché du travail va être plus difficile, ça va se faire avec un rabat sur le salaire. Donc clairement, sur la croissance potentielle à long terme, je ne vois que des impacts négatifs.
Julien Vercueil.
Oui, je voulais abonder dans ce sens-là. Et puis peut-être rappeler que c'est une mesure qui a peut-être été inspirée par la mesure exactement similaire qu'on a vu en Russie au milieu des années 2000, avec le même constat, hein, qui est un vieillissement accéléré de la population, une stagnation de la population, le fait que la population active risque de se contracter assez rapidement, réduisant les possibilités de croissance à l'avenir, et la même réponse, c'est-à-dire une augmentation des allocations familiales, avec un coût double du point de vue électoral. Le premier coût, c'est de dire les familles qui bénéficieront de ces allocations, les plus modestes, seront forcément fortement impactées, on l'a entendu dans le reportage, et donc on a une adhésion de ce côté-là. Et le deuxième point, c'est retrouve les valeurs fondamentales de la droite, voire de la droite très conservatrice, en disant retour des femmes au foyer, etc. Donc pour les valeurs traditionnelles qui sont recherchées par ces gouvernements, c'est quelque chose qui est doublement payant. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que sur le moyen terme, en tout cas, c'est-à-dire la capacité du pays à générer des ressources permettant de poursuivre sa trajectoire de croissance, le fait de réduire le taux de participation des femmes à la population active est très négatif.
Xavier Richet.
Oui, j'ajouterais deux choses qui sont plus extérieures, c'est-à-dire quel sera l'impact du Brexit sur la politique sociale, dans la mesure où le Brexit, enfin disons l'Angleterre, attirait une grande partie de l'immigration polonaise, donc si elle quitte et elle revient en Pologne, ça va s'ajouter aux problèmes sociaux, d'une part, et l'autre élément, c'est est-ce que la croissance dont vous avez parlé tout à l'heure va se maintenir, s'il y a une contraction de la croissance, ça risque d'accroître le chômage. Donc ce qui pose le problème de est-ce que sur le plan macroéconomique, le gouvernement a une stratégie de diversification par rapport à la dépendance européenne, c'est-à-dire dans le domaine de la formation dont on a parlé tout à l'heure, construction d'infrastructures, le problème d'éviter les écarts entre les villes et puis et les campagnes, qui est très 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 frappant en Pologne. Donc il y a toute une réflexion sur l'au-delà, disons, du pain béni qu'a été l'intégration à l'Union européenne pour la Pologne et la présence des capitaux étrangers.
Vous avez évoqué au début de l'émission la place de ces pays, Pologne, Hongrie, Autriche, dans les chaînes de valeur, dans les circuits de construction, dans les circuits industriels. Oui. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont des ateliers, des sous-traitants, c'est ça?
Oui, alors attendez, il faut faire une séparation avec la Pologne, avec l'Autriche. L'Autriche est un pays tout à fait différent, qui est bénéficiaire, et depuis très longtemps, de sa position vis-à-vis de l'Europe de l'Est, parce que ça a été un pays d'accueil, donc ça crée des problèmes d'immigration, d'intégration aujourd'hui, dont vous allez parler peut-être dans la prochaine présentation, mais c'est quand même un des pays bénéficiaires de l'élargissement européen, puisqu'on va retrouver les plus grandes banques autrichiennes, dans la région, les compagnies d'aviation, etc. Il y a une présence manifeste de l'Autriche qui a profité de cette ouverture. Donc, il ne faut pas mettre sur le même palier, enfin, disons, au même niveau, l'Autriche et ces deux autres pays. Par contre, les autres pays sont des économies qui ont été totalement intégrées dans le processus de production. Si on prend, par exemple, Volkswagen en Europe de l'Est est présente en Tchéquie, en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, etc. Si vous regardez les statistiques sur l'investissement direct, direct étranger, vous verrez que le secteur manufacturier est le principal, aujourd'hui ce sont les services, mais principal secteur qui accueille ces IDE. Donc ça veut dire que ce sont des lieux où on fabrique et ils sont intégrés totalement à la chaîne de valeur de l'Allemagne. Alors le problème qui se pose, c'est ça le dilemme de la présence du capital étranger qui peut être positif, mais qui est négatif si ça ne sert pas de levier pour essayer d'aller au-delà, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que un jour la Pologne va se priver des investissements allemands, mais à côté des investissements allemands, Pays-Bas, etc. Est-ce que dans la politique économique, dans les choix industriels qui sont faits, il y a des possibilités développer des secteurs qui seraient moins dépendants, disons, du capital étranger.
Anna Boata.
Oui, je rajouterais deux choses. La première, c'est le fait que, effectivement, cette intégration dans la chaîne de valeur européenne protège un petit peu ces pays d'une, disons, punition des marchés. Aujourd'hui, on voit bien que les marchés, en général, et les investisseurs sont très attentifs sur la politique publique des pays émergents. Et ces pays émergents, on peut pas dire que particulièrement ils se prennent pas négativement, puisqu'on voit, dans certains pays, ça dérape, mais ils sont protégés par l'appartenance à l'Union européenne, par le fait que, de toute manière, ils sont intégrés dans les chaînes de valeur, donc les fournisseurs polonais ou tchèques ou hongrois, ils auront toujours de la demande en provenance de l'automobile allemand ou de machines et équipements allemands. Donc ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose que je vois comme problématique, c'est la hausse des salaires, la hausse du coût du travail dans ces pays-là. Et là, clairement, c'est la conséquence d'un régime plutôt populiste qui, et encore une fois, c'est le cas aussi en Roumanie, en Slovaquie, dans d'autres pays, pas qu'en Pologne ou en Hongrie. Et là, on voit des croissances de salaires à deux chiffres. Et clairement, ce sont des pays qui deviennent moins compétitifs qu'avant. Et donc c'est là où on se demande, quand on sait que l'environnement économique européen ralentit, que les entreprises ont du mal à dégager des marges, on se dit comment ils vont faire pour augmenter la capacité de production dans ces pays, en sachant qu'ils vont être beaucoup moins compétitifs que les pays asiatiques. Et quand on sait qu'aujourd'hui, de toute manière, la Chine, elle essaye de recréer cette route de la soie pour réduire les temps de transport, donc on peut aussi se poser la question d'une relocalisation de ces hubs ailleurs qu'en Europe. Et c'est ça le risque. Et donc, du coup, la protection que l'Union européenne donne aujourd'hui, elle sera moins évidente.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des politiques économiques des gouvernements d'extrême droite installés en Europe centrale, Hongrie, Pologne, Autriche. Trois invités autour de ce micro. Anna Boata, économiste chez Euler Hermès. Julien Vercueil, prof à Langzo. Xavier Richet, professeur d'économie européenne à la Sorbonne Nouvelle. Paris 3. Nous partons maintenant dans le troisième pays qui est au centre de cette émission, l'Autriche, pays dirigé depuis décembre 2017 par une coalition entre les conservateurs et l'extrême droite. L'apprentissage est traditionnellement un des piliers de l'éducation dans ce pays, mais de plus en plus de jeunes choisissent aujourd'hui l'enseignement supérieur. Résultat, l'Autriche manque d'apprentis. Les immigrés seraient bien utiles, mais le gouvernement veut interdire l'accès de l'apprentissage aux demandeurs d'asile. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Isor Yas à Vienne.
12 000 places d'apprentis sont actuellement vacantes en Autriche. Le manque de candidats se fait sentir dans des domaines divers, dont la mécatronique. C'est le constat de Peter Merten, à la tête d'une PME de 93 salariés, qui fabrique à Vienne des pièces détachées pour l'industrie. Aujourd'hui, il emploie 7 apprentis, mais les trouver a été fastidieux.
C'est difficile de trouver des jeunes qui ont l'envie, mais aussi les capacités pour travailler dans ce secteur compliqué. Et pourtant, ce n'est qu'à travers une bonne formation en apprentissage qu'il est possible de façonner les ouvriers qualifiés de demain. Et puis former un apprenti coûte moins cher que former un ouvrier.
Et Jessica Sperger est l'une de ces 7 apprentis. Elle le confesse, être apprenti ici n'était pas une évidence. Pourtant, elle encourage aujourd'hui ses camarades à franchir le pas, tant ce statut présente davantage à ses yeux.
On se rend compte qu'on apprend plus en entreprise qu'en restant assis à l'école. On voit les gestes, on apprend comment bien travailler avec les machines. Et ça permet d'avoir un travail plus tard, de gagner de l'argent tout en prenant du plaisir.
Mais les profils comme celui de Jessica se font rares et ce manque d'apprentis risque de s'aggraver à l'avenir dans certains secteurs. Voilà pourquoi depuis 2012, les demandeurs d'asile avaient le droit de faire un apprentissage dans les secteurs où il y a besoin de main-d'œuvre. Tourisme et restauration, par exemple. Mais le nouveau gouvernement veut l'interdire, une hérésie pour Gexit Osman, à la tête de l'entreprise éponyme qui fabrique des dirndl, des robes traditionnelles très célèbres en Autriche.
Il n'y a pas assez d'Autrichiens qui veulent devenir apprentis. Nous avons donc décidé de prendre des demandeurs d'asile comme apprentis, car ces jeunes gens s'intéressent à notre métier et ils sont doués. Pour moi, la décision du gouvernement est politique, c'est pour montrer qui est le plus fort.
Plus de 60 000 Autrichiens, dont de nombreux entrepreneurs, ont déjà signé une pétition contre ce projet du gouvernement. Une opposition que l'économiste Judith Kohlenberger explique aisément.
De nombreux Autrichiens travaillent dans des entreprises familiales et sont concernés par ce manque d'apprentis. Ils ne comprennent donc pas pourquoi on les priverait de ce capital humain. Mais cela pose aussi une question quand on regarde les dépenses de l'État pour l'intégration qui vont augmenter, car il va y avoir plus de demandeurs d'asile à prendre en charge.
Le bureau autrichien de l'UNHCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a également critiqué cette décision, car elle forcerait de facto les demandeurs d'asile à rester inactifs durant l'examen de leur demande, qui prend souvent plus de 2 ans.
Un reportage signé Isor Yas à Vienne, dans Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs sur RFI. Je voudrais vous faire part d'une réflexion à l'écoute de ce reportage et de tout ce qui vient d'être dit. Il y a quand même une contradiction entre cette baisse démographique dans tous ces pays-là, les besoins de l'économie et les postures politiques de ces gouvernements qui refusent l'immigration, qui refusent une main-d'œuvre dont ils auraient tellement besoin, Julien Vercueil.
Ah oui, tout à fait. Et cette contradiction, selon moi, s'explique par la priorité qui est donnée par tous ces gouvernements aux questions de court terme. C'est-à-dire que l'idée est de susciter une adhésion immédiate, quitte à ne pas s'embarrasser avec des questions qui sont plus structurelles, qui sont plus de long terme. Et là, avec ce reportage, on voit très bien que cette décision prise de fermer les portes de l'apprentissage à ceux qui pourraient y être intéressés et contribuer efficacement à la production et à l'amélioration de la production industrielle, c'est d'une certaine manière sacrifier les possibilités de croissance de long terme à des considérations électorales de très court terme. On a les mêmes types d'observations à faire dans beaucoup de décisions qui sont prises en Hongrie et en Pologne aujourd'hui.
Par exemple ?
Par exemple, le fait de considérer que la liberté de la presse n'est pas quelque chose de très important, que l'indépendance de la justice est quelque chose que l'on peut fouler aux pieds. Ça, c'est quelque chose qui, à court terme, peut faire plaisir à quelques électeurs de l'extrême droite, mais qui, à moyen terme, va totalement limiter les possibilités pour les entreprises de fonctionner, parce qu'elles ont besoin d'une indépendance de la justice, ces entreprises.
Xavier Richet ?
Oui, moi je serais un peu provocateur en disant que ce reportage, ça me fait penser à la France, finalement, dans la mesure où on est dans une économie de services, où l'apprentissage n'attire pas les gens, pas beaucoup, hein, on ne met pas beaucoup en place, mais ça n'attire pas les gens.
Un peu plus, c'est pareil, en France.
Oui, mais enfin, c'est vu, aujourd'hui les gens veulent avoir des métiers méritants, on délaisse l'apprentissage qui est mal vu, etc. Donc là, il y a un phénomène de pays riche, hein. Je crois qu'on ne peut pas comparer avec les autres pays. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est quand même surprenant, je suis d'accord avec les commentaires qui ont été faits, c'est que, historiquement, la Pologne est un pays d'intégration notamment des voisins. Si vous prenez les Hongrois, les Roumains, etc. Et c'est surprenant de voir cette attitude.
C'est-à-dire qui a
absorbé des populations. Si vous regardez les annuaires du bottin téléphonique, vous verrez de la ville de Vienne, vous serez surpris de voir le nom de gens avec des consonances de noms étrangers. Bon, alors ça c'est surprenant. Le troisième point, c'est est-ce que finalement et ça va pas provoquer un processus de délocalisation des firmes autrichiennes aux environs. C'est extrêmement intéressant de voir, par exemple, qu'aujourd'hui, si vous prenez la Slovénie qui est tout proche, aujourd'hui il y a un véritable boom économique puisque le pays est tout petit. On retrouve les problèmes que vous avez cités tout à l'heure, mais absorbe la main-d'œuvre qualifiée qui vient de Bosnie, qui vient de Serbie, etc. Donc on peut très bien considérer qu'il y a une sorte de division qui va se faire, territoriale ou régionale du travail, avec la délocalisation aux frontières. Bon, rien n'interdit d'aller en Hongrie, rien n'interdit d'aller en Slovénie, etc. Donc ça sera, les Autrichiens le paieront à un prix cher, mais c'est le prix, disons, de l'aveuglement politique des dirigeants actuels. Mais on peut très bien considérer un mouvement de délocalisation dans ce secteur, disons, aux marges, qui sont prêtes à accueillir ce type de...
Mais vous disiez tout à l'heure, me semble-t-il, que l'Autriche était beaucoup un pays de services, qu'il y avait des banques,
oui, etc. Bien sûr, oui.
Dans la finance, est-ce qu'on peut assister aussi à des délocalisations ?
La plus grande banque occidentale implantée dans la région, c'est une banque Raiffeisen, c'est une banque autrichienne. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les trois pays. L'Autriche est un pays
infiniment plus développé.
Ultra développé, il n'y a pas de comparaison.
Anna Boata.
Moi, je voulais rajouter le fait que ces gouvernements non traditionnels ont gagné sur un discours contre l'immigration. Donc, tous ces trois pays et d'autres qui connaissent, bon, à part l'Italie, qui est une exception, mais même le Royaume-Uni et le vote pro-Brexit, c'est fait sur l'immigration, non pas sur des fondamentaux économiques, pas sur l'absence de croissance, des inégalités. C'est clairement une absence d'absorption de ce flux migratoire ou de la crise des réfugiés. Peut-être en partie mal gérée par l'Europe elle-même, mais clairement là aujourd'hui, l'Europe commence à agir, peut-être un peu tard parce que les élections sont au mois de mai, mais on voit bien qu'en fin de classement sur le taux de participation, sur l'intérêt à l'Europe, on a tous ces pays de l'Europe de l'Est. Donc on a un taux de participation des Slovaques aux élections européennes de 2014 de 20% quand on compare ça à 70% en Belgique. Donc on voit bien qu'en fait il y a une mauvaise compréhension de l'Europe. L'Europe, c'est quelque chose qui fait des réformes dont on ne bénéficie pas. Et donc là, il y a un changement de discours où on se dit, les priorités, c'est la sécurité, parce que c'est ce qui intéresse les gens, hein, la sécurité externe, la sécurité interne, l'immigration, la bonne gestion de l'immigration, l'arrêt des flux de l'immigration illégaux. Donc, clairement, quand on voit que les estimations montrent 40% presque de voix populistes, peut-être potentiellement l'année prochaine, il y a quelque chose à faire du côté des partis plus traditionnels pour avancer l'Europe vers des réformes, vers plus d'ouverture, vers garder les fondamentaux démocratiques. Donc tout simplement, je pense que c'est là où il y aura peut-être un retournement et un rêver à la réalité, si vous voulez, des Européens.
On vous réinvitera pour en parler, tirer les conclusions. Xavier Richet, Julien Vercueil, je vous aurais volontiers donné la parole. Malheureusement, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Anna Boata, Julien Vercueil, Xavier Richet, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.rfi.fr ou alors sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Toujours à l'onglet émission, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.